en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le juriste François Théré a donné le lundi 10 octobre 2011 une communication à l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « Le droit entre espoir et réussite du juste ». François Théré a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1995, au fauteuil précédemment occupé par Suzanne Bastide. Il siège dans la section « Législation, droit public et jurisprudence ». Écoutez cette retransmission grâce à Canal Academy et entrez dans la salle des séances.
Le juriste n'est pas toujours bien vu dans la société. Quel est-il lorsque, dans certains États, des États-Unis d'Amérique, on veut savoir quelles sont les propensions ou les aspirations des enfants en leur demandant de construire des villages avec des cubes, des jeux de cubes? Il est clair que l'on discerne tout de suite quels sont ceux qui ont une vocation particulière à devenir des juristes. Lesquels ? Bien, l'on voit que ceux qui veulent mettre des arbres pour le village sont des poètes. Ceux qui mettent des routes sont des architectes. Ceux qui prévoient quand même des cours d'eau sont les cultivateurs. Les juristes mettent des barrières. Et l'idée de la barrière devient aussitôt le critère qui offre à l'examen de tous une image du juriste qui est un empêcheur de danser en rond. Les gens, heureux, vivent comme si le droit n'existait pas, ou si peu que possible. Il fut un temps où les deux contacts du citoyen avec le droit étaient le policier et le percepteur. Comme maintenant la moitié des Français ne paye plus d'impôts, et qu'il s'agit seulement de rassurer ceux qui les payent en disant qu'on va les diminuer, va au contraire ou diminuer ou augmenter la charge fiscale, tout change. En fait, je crois que cette coexistence des libertés, en quoi se définit le droit, c'est la coexistence des libertés, suscite quand même de la part des uns et des autres des réflexions qui ne sont pas toujours les mêmes suivant les professions considérées. Il y a les légistes, les bureaucrates, il y a les dogmaticiens aussi, ne les oublions pas, et il y a aussi le commun des mortels. Car le commun des mortels n'est pas, ne peut pas être assimilé à un spectateur engagé, au sens des historiens ou des philosophes. Le commun des mortels contribue à la création du droit. Et comment le fait-il ? Mais tout simplement lorsque l'on définit ce que c'est que la coutume. La coutume est fondée à la fois sur une pratique de longue durée et puis aussi sur la croyance dans le caractère obligatoire de ce comportement. Et alors, nous voici obligés de diagnostiquer et d'essayer de comprendre, de remédier au problème de ce qu'est aujourd'hui le juste, ou plutôt le droit par rapport au juste, alors que le juste n'est plus la seule finalité du droit, mais qu'il s'y est ajouté bien d'autres finalités, au temps des révolutions, la propriété, la liberté, l'égalité, et même les quotas dans les recrutements de cover girls. Je crois qu'il faut qu'il y ait des quotas dans les recrutements de cover girls pour que l'égalité soit respectée entre les chameaux et les autres. Quoi qu'il en soit, il est évident que dans cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui, deux questions se posent concernant le problème du droit entre l'espoir et la réussite du juste. Et je voudrais savoir de la part des historiens, je questionne plus que je ne réponds, quel est celui qui a vraiment inventé la règle suivant laquelle il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. On m'avait cru, j'avais cru que c'était Guillaume d'Orange, mais voilà qu'un de ces multiples historiens, qui fut d'ailleurs en vain candidat à notre académie, mais un historien candidat, c'est un pléonasme, peut-être, en la matière. Il est de fait que, de toute évidence, c'est, semble-t-il, Guillaume d'Orange, mais on le dit que c'est Charles Le Téméraire qui a copié Guillaume d'Orange. Je laisse aux historiens éminents de cette maison le soin de répondre et de combler, là aussi, mon ignorance. Et je voudrais simplement, alors, pour répondre à cette question, en pensant ipso facto que le droit doit espérer pour entreprendre et surtout doit réussir pour persévérer. Donc, merci, Guillaume d'Orange. C'est sur ce thème, au fond, que j'avais imaginé quelque idée. Mais quelque idée, il y a 8 mois. Et par conséquent, les temps, ou 6 mois, les temps passants, se dit que les idées sont comme le reste. Elles s'envolent ou les portent les vents. Et c'est donc uniquement sur, un, les diagnostics, et en second lieu, sur les remèdes d'une situation qui aujourd'hui nous interroge, comme on dit méchamment. Non, nous interpelle, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Sinon, pour comprendre la situation. Alors, notre situation de constat, de diagnostic de la situation, de ce qu'est le droit aujourd'hui, dans ses rapports entre le juste, l'injuste, l'espoir ou la réussite, appelle quelques réflexions que je soumets à votre sagacité. D'abord, le constat. Qu'est-ce que l'on peut considérer comme devant être le constat essentiel de notre état de choses? Il y a un vieux slogan, une vieille idée qui est totalement reprise de génération en génération. Il y a trop de lois. Ah, il y a trop de lois, il y a une inflation des lois, il y en a dans tous les sens. Et au fond, c'est cela contre quoi il faut combattre. Cette idée, elle est vieille comme le monde. Elle n'a pas attendu la Ve République pour se manifester dans la pensée. Démosthène citait toujours, je m'excuse d'avoir souvent repris cette histoire, dans un des plaidoyers de Démosthène, il cite comme un miracle la loi des Locriens. Qu'est-ce qui se passait chez les Locriens ? C'est que toute personne qui proposait à l'Assemblée la réforme d'une loi ou une loi nouvelle, la présentait la corde au cou. C'est un moyen de réduire incontestablement la furie législative, car si la loi n'était pas acceptée, on tirait la corde. Et c'était uniquement lorsqu'elle était acceptée que celui qui proposait la réforme avait la vie sauve. Alors, il y a eu très peu de lois. Chez les Locriens, on s'en étonnera pas trop. Il y en a une qui est passée dans une situation qui intéressait déjà les Locriens, mais qui amuse beaucoup les étudiants aussi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils ont un humour vraiment curieux. Celui de l'accident que subit un borgne lorsqu'il perd son second œil et que l'on s'interroge sur les prédispositions physiques de la victime, les uns disant, les assureurs, bien sûr, ils n'ont perdu, il n'a perdu qu'un œil. Mais au contraire, les familles disant, en perdant les deux, il est devenu aveugle. Eh bien, c'est sur ce point que quand même la furie législative des Locriens, ou d'un Locrien parmi les Locriens, quoi qu'on discute au point de savoir où se trouvaient les Locriens, si c'est en Grande-Grèce ou en Thessalie, que cette règle a été acceptée. Alors nous savons aujourd'hui qu'il y a une inflation des lois, mais elle n'est pas plus importante que par le passé. Et d'ailleurs, si l'on reprend Tacite, il disait la même chose. Et Montaigne aussi, pareil. Et Montesquieu aussi, il y a trop de lois, il y a trop de lois. Et cela se répète à longueur de périodes législatives sans véritablement être significative. Des lois, des arrêtés, des circulaires, des textes de recommandation, des textes de régulation. Il y en a dans tous les sens, mais au fait, sous le bas-empire, il y en avait tout autant, et c'est justement le signe du bas-empire que la réflexion qui avait été faite sur les senatus consuls, sur les rescrits. Ah, maintenant, on en a aussi, d'ailleurs. Mais en toute hypothèse, la furie législative, elle s'explique aisément. Elle s'explique, et même si elle se développe aujourd'hui, plus que par le passé, ce n'est pas nécessairement une régression. Cela peut être le moyen aussi de satisfaire à des besoins nouveaux que la société complexe et de plus en plus complexe est en voie de nous apporter. Ce qui est d'ailleurs le signe de cette situation, c'est le développement des circulaires. Les circulaires sur les circulaires, J'en ai lu une circulaire toute récente du 25 février 2011 sur l'abus des circulaires. Et ayant examiné aussi avec un collègue publiciste, donc remarquable, que l'on devait simplifier le droit, mais le droit du simplifié a suscité un droit de la simplification du droit et de ces étapes, de ces nappes qui surnagent et qui sont du moins à la multiplication du droit qu'à leur instabilité, ce qui est tout autre chose. Et alors, si c'était déjà le cas dans la période hellénistique, si c'est sûrement le cas au Bas-Empire, disons-nous simplement aujourd'hui que nous sommes en Basse-République et que nous nous y trouvons pas trop mal. Ce qui est plus douteux et plus discutable, en revanche, c'est le fait de certains constats qui sont beaucoup plus inquiétants et beaucoup plus sévères. Je vais vous en donner quelques exemples. Cela du côté des lois, puis du côté des jugements. Premier exemple, si l'on voit quelques lois remises en question, la remise en question des lois est souvent constante, c'est par exemple en matière de faillite. Un décret du 20 mai 1955 a été modifié ensuite par une loi du 13 juillet 1967, qui a été modifiée aussi par une loi du 25 janvier 1885, qui a été encore modifiée en 2004 et en 2006. Et pourquoi n'y parvient-on pas? Parce qu'il y a une contradiction latente et manifeste à vouloir poursuivre trois objectifs qui sont souvent contradictoires par la même loi, sauver l'entreprise, préserver les salariés et aussi favoriser le développement de l'entreprise. Quand on veut chercher, quand on veut atteindre trois buts contradictoires, on n'y parvient pas et on recommence. Et je voyais que récemment, dans une discussion sur la terminologie juridique en d'autres enceintes, que les questions étaient posées de savoir pourquoi vous ne parlez plus de faillite. Et j'ai été obligé de répondre parce que tapis ne ressemble pas à Birotteau. Et c'est tout. C'est de cette manière que, tout simplement, il faut bien changer. Deuxième exemple, le fait d'avoir recourir à des lois inutiles. Alors, des lois inutiles, des proclamations. La loi, et je parle sous le contrôle de mon vieux complice, camarade, confrère, Pierre Mazot, sur la loi qui reconnaît l'authenticité de la montagne. J'attends que le Conseil constitutionnel soit saisi rapidement, parce qu'il y a atteinte à l'égalité par rapport au littoral. Vous savez, la loi littorale, comme si on dit que les décrues de la mer ont emporté les articles qui servent quand même à l'expression de la pensée juridique. Et là encore, ces lois inutiles. Et puis, est-ce que la loi reconnaît l'authenticité des crevasses? Si elle reconnaît l'authenticité de la montagne, c'est excellent pour les alpinistes en difficulté. La troisième remarque aussi que l'on peut faire, c'est l'existence de lois qui sont immédiatement contredites. Alors là, dans le domaine rêvé de la bioéthique, c'est affaire courante. Et notamment sur l'expérimentation sur les embryons. L'expérimentation sur les embryons doit être contestée, oui. Mais l'article qui interdit l'expérimentation sur les embryons est accompagné le même jour, par la même loi, d'un article qui le suit et qui dit « Cette interdiction de l'article précédent, elle est suspendue pendant certains 5 ans, sous certaines conditions. » Alors, je peux continuer. Des exemples, je vous en donnerai encore. Les lois qui sont bloquées en cours de route. Par exemple, il avait été prévu en 2008 une loi sur qui constatait la possibilité de pratiquer, d'établir des statistiques génétiques. Elle avait prévu des expérimentations, des statistiques génétiques, et le hasard a fait, c'était une très bonne solution, mais elle a suscité l'ire de défenseurs des droits et libertés. Ils ont même, à ce moment-là, proposé, il y avait même M. Strauss-Kahn, M. Jacques Lang, M. Touchard, ouais, vous voyez, à peu près, un petit monde, et ils avaient proposé aussi de bannir de la langue française le mot « race » et de procéder à une réforme constitutionnelle en interdisant la référence. Remarquez bien que ça aurait été très commode pour ceux qui sont racistes, qui donc échapperait dans la logique du système
à des reproches et à des atteintes, voire des poursuites.
Il fallait mettre autre chose. Finalement, ça n'a pas été admis, mais je pense que finalement, tout cela est typique. Les lois promulguées, dès qu'elles sont promulguées, elles sont suspendues d'application. Exemple, la loi sur le premier emploi, l'embauche, premier emploi, première embauche. Votée, promulguée, et aussitôt on dit, on l'appliquera pas. On l'appliquera pas, mais est-ce que... Et alors on arrive à cette idée que la loi est faite pour être promulguée, mais pas pour être appliquée. Et voici que tout le domaine de l'application des lois devient en quelque sorte un domaine scindé de la chose. Que dire encore de tout cela? C'est au fond
l'influence des mythes.
Et il y a trois mythes qui ont suivi l'humanité dans l'explication de la force obligatoire des lois. Le premier mythe, c'était la création des dieux, qui avaient créé et des lois, des textes, et puis le temps a passé. Ce furent ensuite les ancêtres, ou même aussi les escrocs, disait Voltaire, qui avaient inventé des lois. Et maintenant, c'est le mythe de la volonté générale. Et ce mythe d'une volonté générale, qui n'est ni volonté, ni générale, suffit à satisfaire tous ceux qui pensent que le progrès ne s'arrête pas. Mythe aussi de l'habeas corpus. Ah, quelle aventure, l'habeas corpus. Il suffit de lire ce qui en résulte dans la presse quotidienne de ce matin. Ce n'est pas la naissance d'un enfant, ni autre chose, une consultation préalable. Non, c'est l'habeas corpus. Vous lisez les premiers propos de M. Giscard d'Estaing, devenu président de la République. Il nous faut un habeas corpus à la française. C'est un mythe, hein, l'habeas corpus, mais ça fait rien. En Angleterre, cela n'a jamais été conçu, comme on le croit, de l'autre côté de la frontière. Et aussitôt, le garde des Sceaux de l'époque, M. Perfit, notre ancien confrère, de dire « Attendez, attendez, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, bien que les avocats, déjà, à l'affût, essayaient d'en tirer quelques profits. » Quelques années plus tard, M. Mitterrand est élu président de la République. Ça y est, le mythe de l'habeas corpus, moins d'un mois après son élection, et aussitôt, le garde des Sceaux interdit doucement, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Et voilà que notre président de la République actuel recommande, il copie. Ils sont comme des anciens juristes qui se copiaient les uns les autres. Ils se copient car les dialogues sont les mêmes. Et finalement, il en résulte une loi sur la garde à vue, dont l'explication est incohérente, dont les conséquences ne changent pas par rapport aux 7 lois qui ont occupé le terrain, mais comme le Conseil constitutionnel s'en est mêlé, contredit par la Cour européenne des droits de l'homme. Et en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne s'en occupe à son tour, il est clair que nous sommes dans l'embarras. Eh bien, c'est la même chose pour les fonctions du juge. Les fonctions du juge révèlent aussi une difficulté, car si l'on envisage l'évolution du droit vu à travers la vision judiciaire depuis 50 ans, ce que l'on constate, c'est la démultiplication des rôles du juge, qui est devenu juge des enfants, qui est devenu juge de l'expropriation, qui est devenu juge de l'administration des patrimoines. Ça fait 500 000 personnes mentalement atteintes en France, ça fait 500 000 clients pour le juge et tutelle, etc., etc., j'en passe. Et l'on voit que, par conséquent, cette augmentation du rôle du juge n'a jamais été suivie par une augmentation du nombre. Le juge est devenu bon à tout faire. Pas bon à tout faire, enfin, attention, là, les deux, hein. Je ne vais pas avoir d'histoire. Et il est clair que ce bal doit être analysé, et je cherche quelques expressions possibles. Eh bien, il y a tout d'abord le premier mal, et Richelieu l'avait déjà dit, car quand même, ce bon Richelieu, il est là. Et c'est un faux, hein, oui. Bon, disait bien qu'il est plus facile de dénoncer les maux de la justice que d'en prescrire les remèdes. Merci, c'est toujours pareil. On ne change rien sous le soleil. Eh bien, ce qu'il disait plutôt est aussi vrai aujourd'hui que dans le passé, et que peut-être aussi, si l'on retourne vers ce siècle
tout à fait admirable, c'est aussi La Rochefoucauld qui disait si bien que les procès dureraient moins longtemps si les torts n'étaient pas partagés. Et c'est vrai, si 50% des Français sont contents de la justice, c'est une bonne justice. Et c'est en fait, de ce point de vue, qu'il faut peut-être analyser la lenteur, la contradiction qui peut exister entre des décisions d'une même juridiction, l'incertitude aussi, et puis la connaissance et l'accessibilité, qui entraînent aussi pour la compréhension de la justice une introduction d'un concept qui est cher à un certain nombre de collègues publicistes et qui a inspiré les progrès admirables de leur jurisprudence ou de la jurisprudence, c'est le principe de proportionnalité. Eh bien, le principe de proportionnalité, oh, il satisfait le philosophe que vous êtes, Monsieur le Président. Il faut traiter de la même manière les choses semblables et de manière différente les choses dissemblables. Salut aux stagirites. Mais quand même, cette réutilisation en forme de proportionnalité peut aboutir quand même à des conséquences singulières et à l'incertitude sur ce que c'est dans le concret, dans le cambouis où sont les juristes et où ils doivent rester, la signification de la sagesse philosophique. Alors, les remèdes. Les remèdes, après, les diagnostics, ces remèdes, ils sont divers et je les imagine dans quatre directions. La première direction, c'est quand même l'insuffisance de la réflexion ou les impasses de la philosophie du droit. Car si l'on arrive difficilement à comprendre ce que peut être le fondement du droit, on s'aperçoit qu'il y a eu deux périodes. La période qui tendait à se rapprocher d'un droit naturel ou d'un droit rationnel. Le droit naturel, c'est un droit rationnel, au sens ancien du mot. Et que ce soit par la nature, par la raison et par la volonté, la nature du monde, la nature de l'homme, la nature des choses, la nature du monde pourrait être donnée à réflexion un peu aux écologistes, mais ils ne connaissent pas la philosophie antique. Et de ce fait, il est bien clair que nous ne pouvons pas trouver facilement une explication philosophique, car à cette conception philosophique s'est ajoutée dans la pratique et dans la pensée de 95% des Français le positivisme juridique. Ce qui est droit, c'est ce qui est posé comme droit. Ce qui est droit, c'est ce qui est sanctionné par la puissance publique, alors que c'est le contraire. Il n'est pas droit ce qui est sanctionné par la puissance publique, mais c'est ce qui est droit qui doit être, dans un premier temps, défini pour être accompagné de cette sanction. Alors, finalement, on s'aperçoit que l'impasse est due, dans un premier temps, à la difficulté et à l'insuffisance de la réflexion philosophique qui se rejoint, il rejoint ici la théorie du choix rationnel dont on nous a déjà parlé la semaine dernière. Et alors on voit que ce qui rend difficile la tâche du juriste, c'est l'existence de trois considérations, de trois outils conceptuels qui lui sont nécessaires et qui ne sont pas nécessairement aussi nécessaires dans les autres branches du savoir. Le premier, c'est l'existence du non-droit. Non pas le non-droit tel que le racontent les journalistes, car enfin, les sources du droit, c'est aussi la colère des victimes, les clameurs de la rue et les erreurs des journalistes qui cohabitent avec la loi, la jurisprudence et la coutume. Le non-droit, c'est le domaine dans lequel le droit s'abstient d'intervenir, et non pas le non-droit des banlieues, qui est celui de la violation de la loi promulguée. La force normative aussi, sur laquelle beaucoup de réflexions nouvelles, et je salue notre confrère Mireille Delbas-Barty sur le droit mou, le droit flou, le droit doux, en attendant le droit fou. Mais ça, nous avons eu souvent l'occasion de parler. La réforme, la pensée profonde de notre temps est extraordinairement novatrice. Et puis, sans doute aussi, l'idée qu'il peut y avoir une loi d'un maximum de différence. Cette loi d'un maximum de différence qui a été imaginée en droit international public par certains grands auteurs, une loi du maximum de différence entre un traité et un droit national. Il faut qu'il n'y ait pas un maximum de différences, disait Niboyet, qui est un des grands auteurs du XXe siècle. Eh bien, peut-être qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un écart trop grand. Il y a un maximum de différences entre le droit et le fait. Car après tout, quand on commence à multiplier les chèques sans provision, on ne punit plus les chèques sans provision. Et c'est aussi ce qu'a bien examiné d'autres auteurs, et je pense notamment à tout ce qu'a écrit Raymond Boudon sur le sujet. Deuxième considération, la nécessité de corriger quels sont les objectifs que l'on doit imaginer. Le premier, c'est de corriger les erreurs. Quand la loi du 20 novembre 1999 a régi, a décidé d'introduire le PACS. PACS, en 1999, c'était essentiellement sous la pression des couples homosexuels. Et à ce moment-là, l'on s'est aperçu qu'il ne fallait pas faire de la discrimination et que par conséquent, il était nécessaire surtout, l'égalité, pourtant des choses différentes, de traiter de la même manière les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Alors pendant longtemps, on n'a pas su comment ils choisissaient, parce que là encore, un blocage intellectuel et constitutionnel tenait au fait que l'on avait dit qu'il était contraire à la vie privée des homosexuels de prendre en considération à la Commission nationale informatique et liberté une différence pareille, shocking, vie privée, égalité. Résultat, on n'a pas su pendant quelques années combien il y avait, quelles étaient les proportions d'hétéros ou d'homos dans le cadre du PACS. Et puis un beau jour, le blocage a été levé, la CNIL nous a informé, à l'heure actuelle, 87% des couples sont des couples hétérosexuels. Les couples paxés sont à 85 ou 6 ou 7 sur les années des couples hétérosexuels. Alors, cela change tout. C'est une erreur qui a tout changé, puisque en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens mariés, qui se seraient mariés plutôt, passent par le PACS. Pourquoi? Ben parce qu'au moins, ils pourront se séparer facilement. Bye, bye. Et cela, pourquoi? Parce qu'en 1792, la France a accepté l'introduction du divorce pour faire plaisir aux protestants. Qu'en 1884, elle a maintenu la séparation de corps pour faire plaisir aux catholiques. Et qu'en 2004, elle a accepté la répudiation pour faire plaisir aux musulmans. C'est cela la philosophie du mariage et du divorce, en attendant qu'ils obtiennent aussi, comme ils le réclament, mais comme parfois le Conseil constitutionnel le refuse, quant à la pension de réversion de la veuve. La veuve du paxé n'aura pas la pension de réversion, mais la veuve du marié l'aura. Attendons une réforme de plus sur la matière. Corriger les erreurs, le PACS. Il faudrait des études d'impact, et c'est tout de même dans l'ordre des choses prévues. De connaître les règles aussi, mais connaître trop les règles face à une inflation terrible. Le remède existe. Le remède existe parce que l'informatique juridique répond parfaitement à tout qu'on peut savoir aujourd'hui, dans un instant, ce que la Cour de cassation a décidé en 1863 sur un point de droit précis. Donc, l'informatique résout les problèmes de la connaissance. Mais justement, elle a un défaut. C'est que, du même coup, l'oubli est impossible. L'oubli qui est créateur, quand même à sa manière, l'oubli est quand même une condition de la Renaissance. Elle empêche ici la Renaissance et le renouveau du droit. Et puis la face cachée du droit, et puis surtout encore, avant d'en finir, cette compréhension aussi des mentalités. Les mentalités, je les vois d'une triple manière. D'abord, le doute du juriste. Le doute du juriste n'est pas le doute du sceptique ancien, qui doute de tout, peut-être Montaigne éventuellement. Ce n'est pas le doute méthodique de Descartes. Ce n'est pas ça. Le doute du juriste, c'est le doute qui décide. C'est l'obligation de décider qui n'existe pas dans la pensée joyeuse, rêveuse du philosophe. Il faut décider. L'article 4 du Code civil en est le symbole. Le juge qui refusera de juger sous raison de l'insuffisance
ou de l'obscurité de la loi sera coupable du déni de justice. Alors voilà la justice qui réapparaît dans le propos du digne communicant. Deuxièmement, la prudence. Il y a évidemment le doute, il y a aussi la prudence. Il y a un désordre complet dans la pensée, car pour le juriste, la prudence a toujours été une vertu, et malheureusement, elle est devenue la précaution avec principe à la base. Et dès qu'on dit principe, c'est très dangereux. Ce sont les écueils de la principologie actuelle. Car lorsque le juriste dit en principe, attention, faut lever les oreilles, il y a des exceptions. Et c'est toujours ce qui rend difficile les méfaits d'une principologie excessive. Et puis il y a la contradiction. C'est aussi le principe de contradiction. Le juriste vit, et là on retrouve quand même un principe, le principe de la contradiction. Ce qui compte à le juriste, c'est qu'il soit contredit. C'est la scolastique qui a été tellement puissante dans la création du droit. Alors c'est pourquoi je comprends que l'on doive espérer pour entreprendre. Car sinon, il est clair que ces excès, ces précipitations sont de nature à causer des dommages. Et cela, surtout, nous conduit à dire qu'il faut réussir pour persévérer en droit. Réussir pour persévérer. Il y a des domaines que l'on n'a jamais réussi à dominer, jamais pu dominer. L'usure. Les usuriers sont plus forts que les juristes. Les Romains essayaient de combattre cela par la querella d'un numérate pécunier. Non, la corruption aussi est très difficile à combattre, même si elle est en quelque sorte plus ou moins répandue selon les candidats. Et au fond, c'est là que l'on s'aperçoit peut-être que, tout en ayant été prudent en la matière, on en revient toujours à l'idée de la coexistence des libertés, plutôt que les idéologies conquérantes, avec guerre juste ou injuste, qui sont nées de la religion des droits de l'homme. Mais je m'aventure là sur ce terrain. On a réussi en 1789 en la matière, mais faut-il en rajouter toujours ? Le droit à l'avortement, mais le droit à l'enfant. Ah oui. Le droit à la pluie. Ah oui, mais si plus trop le droit au soleil. Ah oui, mais s'il y a la canicule, le droit à la pluie. Le droit devenant schizophrène. Et voilà pourquoi c'est peut-être un autre abus que je détecte ici dans mon propos, l'abus de parole, le droit à la parole. Et enfin, je le vois bien quand j'examine le comportement et le statut des juristes français et autres. L'avocat propose, le juge dispose, le législateur dispose, le professeur expose, l'étudiant compose, et le philosophe, pour finir, décompose. C'est pourquoi je préfère m'en tenir à ce point, un peu pessimiste ou amusé. C'est pour moi la pause.
Vous venez d'entendre François Théré. Vous pouvez retrouver son texte sur le site de l'Académie www.asmp.fr. D'autres émissions avec François Théré vous sont proposées sur Canal Académie.